7h28, on va tout de suite parler avec la mairesse de Montréal, parce que les sujets sont quand même nombreux. Valérie Plante est avec nous. Madame Plante, bonjour.
Bonjour.
Ma première question, d'abord, pourquoi ça vous a pris pratiquement une semaine à réagir aux propos du maire de Hampstead?
Ben, écoutez, comme je l'ai expliqué sur de nombreuses tribunes, surtout à mon retour d'Amérique du Sud, j'étais partie en mission pendant une semaine. Puis ma pratique a toujours été celle de... Quand je commente dans les médias sociaux, c'est que je me rends disponible. Je pense que vos collègues journalistes pourraient valider l'information. Là, je trouve que sur un sujet aussi sensible, en plus, tant qu'à faire une déclaration sur Twitter, par exemple, ça vaut la peine d'être disponible et pouvoir en parler. Alors, j'ai cru bon attendre. Il semble que pour certaines personnes, j'aurais dû ne pas attendre. Alors, j'en prends bonne note pour la prochaine fois, mais c'est vraiment une question de pratique, d'éthique, si je peux dire.
Non, mais sans aller sur les médias sociaux, il n'y a rien qui vous empêche de mettre un communiqué par votre bureau à la Ville. Il n'y a rien qui empêche le président du comité exécutif de faire une sortie au nom de la Ville.
Bien, on le fait, en fait. C'était même la veille. C'est mon responsable au comité exécutif, M. Parenteau, qui est responsable des relations gouvernementales, qui a fait un point de presse sur un autre sujet, puis il en a parlé.
Oui, mais c'est cinq jours après.
Oui, j'entends, mais ce que je veux dire, c'est que on a agi en se disant que c'était préférable que je sois présente. Vous en conviendrez que le climat actuel fait en sorte que ça vaut la peine d'y aller avec doigté, mais j'aimerais ça quand même ramener ça aux propos, c'est-à-dire pas tant aux propos, mais à la déclaration que j'ai faite, qui, elle, était sans équivoque. Là. Je n'y suis pas allée de main morte.
Mais c'est pour ça que je vous dis, les gens se seraient attendus à ce genre de propos sans équivoque, rapidement, justement parce que le débat a dérapé, parce qu'il en a remis une couche, il avait refusé de s'excuser. Puis, comme vous dites, ça donne lieu à des débats qui sont enflammés inutilement. C'est pour ça qu'on se serait attendu que la mairesse, rapidement, prenne position.
Mais écoutez, je vous le rappelle, j'en ai pris bonne note. Le fait d'être à l'autre bout du pays, c'est sûr que ça amène un certain, on est plus loin de ce qui se passe directement à Montréal. Mais je le rappelle, pour moi, j'ai toujours agi comme ça, même dans le passé, depuis que je suis mairesse, qu'à chaque fois que je fais une déclaration, je suis présente. Je suis là pour répondre aux questions. Alors moi, j'ai cru bon attendre. La prochaine fois, je ferai autrement.
OK. Là, je vois que ce midi, vous allez faire une conférence de presse, une déclaration avec le chef de l'opposition sur le projet de loi 21, toujours en marge du conseil municipal. Donc, vous êtes avec M. Pérez. J'imagine que si vous le faites ensemble, c'est que c'est une déclaration commune. Là, vous partagez les mêmes points de vue.
Sur la déclaration, oui. On a pris le temps de rédiger un texte avec lequel nous, comme administration, on était confortable. Et puis, l'opposition... à adhérer à ce qui était écrit. Donc oui, c'est une déclaration commune.
Est-ce que vous demandez un statut particulier pour Montréal concernant la loi 21?
Alors, ce que je dis depuis le début, c'est que moi, je m'en vais en commission, évidemment, et c'est sûr que je vais faire valoir la réalité montréalaise parce que je pense qu'elle est, somme toute, assez oubliée dans ce projet de loi-là. Je comprends que Montréal fait partie du Québec. Ceci étant dit, on peut pas non plus nier que Montréal a des particularités. Nous sommes une terre d'immigration. On est une terre qui s'est bâtie comme ça, comme le reste du Québec d'ailleurs. Mais quand on pense à la vitalité économique, à son dynamisme, c'est entre autres grâce à toute cette grande diversité. Puis on a une des façons de... L'inclusion se passe bien à Montréal. Alors j'ai bien l'intention d'amener ces arguments-là à la commission qui va se produire dans quelques semaines.
OK, bien là, vous me donnez un paquet d'exemples pour me dire, en résumé, que vous souhaitez que Montréal ait un statut particulier, que la loi tienne compte de Montréal.
Mais moi, je vais vous dire, à la base, ce que j'aurais souhaité, c'est que ce projet de loi-là ne se défile pas et n'utilise pas d'emblée la clause dérogatoire. Je pense que ça aurait été la bonne chose à faire. Parce qu'une clause dérogatoire, si on la met en amont et non pas, on aurait pu l'utiliser plus tard si nécessaire, quand on passe au projet de loi, de la loi 101. Mais quand on l'utilise en amont, ça veut dire qu'on coupe tout débat, là, à un moment donné. Je pense que c'est aussi ce qui ressort dans la population, des groupes, des personnes qui se sentent vulnérables, très, très insécures, entre autres parce qu'il n'y a aucune façon de s'assurer que cette loi-là passe l'état juridique.
Okay. Madame Plante, je vous écoute, là, puis je vais vous dire sincèrement ce que je perçois, puis vous me direz si je me trompe. Je pense que vous êtes opposée à des interdictions de signes religieux, que ce soit pour des gens en autorité, que ce soit pour des enseignants, que vous n'êtes pas à l'aise avec la loi, en fait, le projet de loi, que vous n'êtes pas à l'aise avec la clause...
Ah, mais j'ai toujours été claire là-dessus, M. Arcand. Je pense que quand j'ai sorti la première... sortie de la mairesse de l'administration lorsque le projet de loi a été déposé, j'ai clairement dit que ce projet de loi-là, dans la forme actuelle, allait à l'encontre de deux chartes des droits et libertés que pour moi, c'était un problème, c'était très, très important, ce n'est pas rien. Alors, je change pas de sujet.
Non, non, j'essaie juste de...
là.
Non, non, je ne dis pas que vous changez d'idée, j'essaie juste de comprendre exactement là où vous vous situez. Ça veut dire que vous, une interdiction, peu importe pour qui, d'un signe religieux, ça vous dérange?
Ben écoutez, pour moi, ça ne va pas à l'encontre. Non, c'est, j'aime pas la façon dont vous l'utilisez, parce que c'est pas une question de déranger ou de ne pas déranger. Moi, je vais l'amener d'une autre façon, c'est que le port d'un signe religieux ne remet pas en question le professionnalisme et l'autonomie d'une personne, d'un travailleur dans son poste qui l'occupe. Ceci étant dit, pendant un bout de temps, on avait un certain, je dirais bien, certain consensus au niveau de certains postes d'emploi. Moi, pour moi, ce n'est pas un problème, par exemple, qu'un policier, comme on le voit à la GRC ou on le voit ailleurs dans les grandes villes à Toronto, qui porte un signe religieux, dans la mesure où ça ne met pas en sécurité, ça ne met pas en question la sécurité de la personne et surtout de la personne qui peut être accostée. Ceci étant dit, maintenant, quand on ouvre la réflexion aux enseignants, enseignantes, c'est vrai que là, on va beaucoup plus loin.
Mais dans le fond, vous avez la même position que Québec solidaire, là.
Ah, je vais bien être avec vous. Moi, je suis beaucoup plus dans l'application, c'est-à-dire, moi, ce que je veux, là, c'est que n'importe quel individu, une personne à Montréal, un citoyen, citoyenne, qui a choisi de s'installer ici, qui vit depuis des années, qui est né ici, s'il décide d'être enseignant ou enseignante, il va pouvoir le faire. S'il veut pouvoir profiter de services, parce que ça, c'est une question qui était très importante pour moi, dans le précédent projet de loi, vous savez, il y avait beaucoup plus de restrictions sur les services donnés et reçus, tandis que dans ce projet de loi-là, et d'ailleurs, je l'ai salué lorsque le projet de loi a été sorti, ça n'aurait pas d'impact sur les services donnés aux citoyens.
OK. Autre sujet. On a vu les chiffres concernant le statut du français à Montréal et l'accueil dans les boutiques, dans les commerces avec le fameux « bonjour, aïe ». On réussit sans trop de problèmes à se faire servir en français, mais c'est vrai que l'accueil, c'est souvent « bonjour, aïe ». Vous, là, clairement, qu'est-ce que vous souhaitez comme mairesse, puis comme citoyenne, puis comme cliente quand vous entrez dans un établissement?
Alors, clairement, parce que je l'ai déjà dit clairement par le passé, moi, ce que j'aime, c'est un bonjour, point. Puis, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on doit aller. Je sais que la ministre souhaite renforcer certains aspects de la loi. Comment est-ce qu'on peut faire plus de sensibilisation? Comment, parce que ça passe par là, on s'entend. Ce n'est pas la mairesse de Montréal qui peut gérer la langue qui est utilisée dans les commerces. Mais moi, je souhaite qu'on ait des outils. De la même façon, M. Arcan, que je souhaite que on puisse mieux offrir des cours de francisation aux nouveaux arrivants. Parce qu'à un moment donné, on peut, tu sais, ça passe pas par 56 000 manières. On peut dire on n'est pas d'accord parce qu'il y a trop d'anglais à Montréal. Mais encore, faut-il mettre les ressources, les moyens nécessaires pour que ça se passe. Moi, ce que je veux, c'est du monde qui dise bonjour parce que c'est ça qui est beau. Et je vais en profiter,
mais attendez, je vais vous dire une chose, par exemple. Ils disent bonjour. Aïe, là, c'est pas parce qu'ils parlent pas français. Parce qu'on se fait servir dans 96% des cas en français. C'est juste un réflexe un peu, j'allais dire, colonisé ou un réflexe touriste trop devant, en fait, trop mis en évidence, là. C'est pour ça, là. C'est pas une question qu'ils parlent pas.
Ah, ben, c'est un mélange. Il y a un mélange de là-dedans. Ceci étant dit, moi, comme je vous dis, tant mieux si on est capable de venir renforcer le fait que.
Mais qui comprend pas le mot bonjour?
Ben, je sais pas comment vous répondre à votre question.
Ben, je pense que tout le monde le comprend. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne. Vous dites bonjour à quelqu'un, il parle chinois par le ton, il va comprendre.
Je pense qu'on est d'accord, vous et moi. Moi aussi, je veux que ça soit bonjour. Je veux pas de hi. Après, ce n'est pas nécessaire et c'est beau. C'est ce qui fait c'est ce qui nous distingue. Quand les gens rentrent dans les commerces et on dit bonjour, tout le monde le comprend. Là, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut venir mettre des ressources pour que les commerçants ou je sais pas, faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation pour que les vendeurs vendeuses ben s'arrêtent à bonjour puis ils se posent pas d'autres questions et ça va me permettre de faire un petit point à savoir que vous savez quand on parlait du projet de loi 21 juste avant, je voulais faire un lien avec la langue française parce que une des choses que j'entends beaucoup ces temps-ci, je trouve ça très très malheureux, c'est cet amalgame entre la protection par exemple des droits et libertés qui ira à l'encontre de la protection du français et de la culture québécoise. Et présentement, moi, je me retrouve à être un peu comme un porte-étendard de cette personne qui n'aime pas le Québec et qui n'aime pas le français. Et je trouve que c'est une dérive très malheureuse et je tiens à le dénoncer.
OK, mais ça, vous le savez, vous avez l'étiquette, là, vous avez écho des médias sociaux. On dit que la mairesse de Montréal ne défend pas avec assez de fierté les Québécois, le fait français, qu'elle est multiculturelle. Bref, c'est pas elle qui monte aux barricades pour défendre les intérêts des francophones.
Mais en fait, c'est très dommage. Je pense que c'est facile de me mettre une étiquette dans la mesure où on cherche clairement une coupable. Et je le redis, ce n'est pas parce que on souhaite que tous et chacun puisse vivre et travailler, peu importe ce qu'il porte, qu'on est contre le français. C'est vraiment un glissement qui est très, très problématique. Et quand on voit des fake news où on m'associe alors à des personnes, à des manifestations, alors que je suis à l'autre bout de la terre, vous comprendrez que je suis très préoccupée. Et le français, je l'aime. Et je rappellerai que le drapeau du Québec, je suis celle qui l'a ramené à l'hôtel de ville, alors que tous les maires précédemment l'avaient pas fait. Alors moi, je pense que la chasse aux sorcières doit cesser. On doit travailler. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ma position, mais d'aucune manière de me diaboliser, je trouve que c'est acceptable. Ce n'est pas acceptable.
Dernier sujet pour ce matin. On a vu le rapport qui a été rendu public de l'Office de consultation publique de Montréal et je parle de l'avenir du parc Jean-Drapeau. Est-ce que vous avez l'intention d'éliminer la présence des autos sur le parc, réduire le nombre de places de stationnement? Votre collègue du comité exécutif, Luc Ferrandez, a dit que on a reçu l'Expo 67 avec 50 millions de visiteurs, puis il n'y avait pas une place de stationnement, puis tout allait bien.
Ben écoutez, mon Dieu, on n'est pas là parce que M. Ferrandez est le responsable du comité exécutif des grands parcs, mais vous savez que le conseil d'administration du parc Jean-Drapeau est autonome. La population a clairement dit qu'elle voulait plus, elle voulait un meilleur équilibre, je dirais, entre le côté plus de festivals et festifs qu'on aime, mais aussi d'espace vert. Mais il n'était pas question, à proprement dit, de stationnement. On n'est pas là du tout. Parce qu'il faut avoir des accès. On a le Grand Prix, on a plein d'activités également sur l'île. Donc, il faut pouvoir offrir différentes options de transport.
OK, ce n'est pas votre intention de sortir l'auto du parc Jean-Drapeau?
Écoutez, à prime abord, non. Okay. Encore une fois, si on devait le faire, ben il faudrait qu'il y ait des options, d'autres options intéressantes, mais ce n'est pas dans nos plans à ce moment-ci.
Parfait. Merci, Mme Plante.
Ben, merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, 7h40.